Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir. Ce soir, les Muses s'amusent vont continuer le cycle d'émissions consacrées au musée du Louvre. La première émission avait traité du sacre de Napoléon par David, et comme évidemment il y a d'autres tableaux de David, en particulier dans les salles rouges du Louvre, eh bien ce soir nous allons traiter de la plupart de ces grands tableaux de David dans les salles rouges. Mais tout d'abord, il est évidemment logique de dire un peu qui était David. David, Jacques-Louis David, naît à Paris en 1748, quai de la Mégisserie. C'est un peu amusant puisque le quai de la Mégisserie a longtemps été le quai des vendeurs de plantes exotiques et d'animaux exotiques, les singes, les perroquets, etc. Son père est un petit bourgeois, un marchand qui d'ailleurs fera faillite. Sa mère vient d'une famille de maîtres maçons, c'est-à-dire presque des architectes, et d'ailleurs, deux des oncles de David sont des architectes. Et sa mère est également une cousine issue de Germain, du peintre François Boucher, ce qui va servir un tout petit peu à David. David est envoyé au collège, ce qui à l'époque est fort bien pour un enfant de la petite bourgeoisie, il fait sa classe de rhétorique. Néanmoins, son évident talent pour le dessin fait que tout d'abord sa famille envisage d'en faire un architecte. On lui fait donc perfectionner son dessin à l'Académie de Saint-Luc. On le met en relation avec ce distant cousin François Boucher, premier peintre du roi. Mais Boucher est déjà malade, âgé, donc il dit non, que David aille voir mon collègue Joseph-Marie vient. Et en 1766, donc David entre à l'atelier de Vien, un homme qui a un peu, nous dirions, le cul entre deux chaises, puisque, bien qu'il peigne encore passablement dans un style rococo, il se dirige vers ce que David lui-même perfectionnera et qui sera le néoclassicisme. En 1774, après moult péripéties, David obtient enfin le premier prix de Rome. Et on sait que la récompense qui tenait au fait d'avoir obtenu ce premier prix de Rome, c'était un séjour de 4 ans à Rome. Sa première année à Rome, il va la passer à faire des centaines de croquis, de monuments, de statues, de bas-reliefs qu'on a conservés en 5 énormes recueils in-folio. En 1779, David visite Herculanum et Pompéi, où les fouilles ont commencé depuis relativement peu de temps, et c'est son chemin de Damas, si l'on peut dire. Il écrira en 1808, bien plus tard, « Il me sembla qu'on venait de me faire l'opération de la cataracte. Je compris que je ne pouvais améliorer ma manière dont le principe était faux, et qu'il fallait divorcer avec tout ce que j'avais cru d'abord, être le beau et le vrai, fermer les guillemets. » Et donc, de ce choc d'Herculanum et de Pompéi, bien, va naître en peinture le néoclassicisme. Le néoclassicisme, c'est de toute façon un mouvement qui englobe d'autres arts, dont le grand théoricien est l'allemand Winckelmann, mais en tant que peintre, c'est David qui va en être le meilleur et le principal exposant. D'ailleurs, en 1779, justement, il va peindre un tableau qui est, parmi ses premiers tableaux, le plus célèbre, Bélisaire demandant l'aumône. Bélisaire, c'est un général romain, si je ne m'abuse, réduit à la mendicité, et ce tableau va avoir un certain succès, et en tout cas, lance ce style néoclassique. En 1782, David épouse une jeune fille 17 ans plus jeune que lui, Charlotte Pécoule. Son beau-père est entrepreneur des bâtiments du roi, et il va doter sa fille d'une rente de, excusez du peu, 50 000 livres, ce qui permet à David d'installer son atelier et son logement au Louvre. En 1783, après également bien des péripéties, il devient membre de l'Académie des Beaux-Arts. Or, depuis 1781, il pensait à une commande des bâtiments du roi, une grande peinture d'histoire, dont il va choisir finalement le sujet, le serment des Horaces et des Curias. Les bâtiments du roi lui avaient demandé une peinture de 10 pieds sur 10, 3,30 m sur 3,30 m. Lui, il va faire 4,25 m sur 3,30 m. Ça va lui valoir une réputation de rebelle. Et d'ailleurs, il va prendre une initiative tout à fait inattendue. Il expose sa toile à Rome avant la présentation officielle au Salon, ce salon dont vous savez que c'était la grande exposition d'art organisée par l'Académie des Beaux-Arts au XIXe siècle. On aura en moyenne 4000 œuvres présentées chaque année. Être admis au Salon, ça équivalait à un certificat d'aptitude à la peinture, on est reconnu comme un professionnel de la peinture, et obtenir la médaille d'or du Salon, ça c'était un ticket d'entrée à peu près certain à l'Académie des Beaux-Arts quelques années plus tard. Toujours est-il que tant à Rome qu'au Salon, le serment des Horaces et des Curias, dont on va évidemment parler un peu plus tard, a un grand succès et pose David comme très clairement le chef de file de ce néoclassicisme. Ça va d'ailleurs faire de lui un maître pour 2 générations d'artistes. Il va avoir un atelier avec un grand nombre d'élèves, dont, excusez du peu, Giraudet, Gérard, Gros et Ingres. Et puis, juste avant la Révolution, il va produire le tableau extrêmement intéressant appelé « Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils ». Attention, ce n'est pas le Brutus qui tuera Jules César, c'est un des autres Brutus de l'histoire romaine. Ce tableau va également avoir une très très grande popularité, à ce point que les femmes vont avoir des coiffures à la Brutus, c'est-à-dire qu'elles vont enfin, c'est pas trop tôt, abandonner ces grandes perruques poudrées qui étaient leur lot jusqu'à Marie-Antoinette. De même, les hommes et la coiffure en cheveux courts et à boucles du romantisme, eh bien, ces cheveux courts, ça démarre du style capillaire de ce Brutus, de ce tableau. Et d'ailleurs, en plus, dans ce tableau, on voit des meubles très beaux, et l'ébéniste Jacob va réaliser des copies de ce meuble, lançant également un nouveau style, appelé pour l'instant romain. Et puis, évidemment, quand Napoléon ira en Égypte, ce style sera un petit peu écarté au profit du style pseudo-égyptien, c'est-à-dire le style empire. En 1790, après le grand événement, l'un des grands événements de la Révolution, le fameux serment du jeu de paume, David pense peindre ce tableau, ça aurait été son plus grand tableau, 10 mètres de large sur 7 mètres de haut, dans lequel il aurait représenté les 630 députés présents ce jour-là, mais pour financer le tableau, il lance une souscription pour une gravure qui sera tirée d'après le tableau, et cette gravure ne lui rapporte même pas 10% de ce dont il avait besoin, et donc c'est un échec, et il ne peindra jamais le tableau. On n'en connaît que l'esquisse qui est conservée au musée Carnavalet. En août 1790, il entre en politique, et tellement du côté de la Révolution que sa femme Charlotte, qui elle est bien plus conservatrice, est en désaccord profond et va se séparer de lui. Le 17 juillet 1791, David signe la pétition réclamant la déchéance de Louis XVI. En 1792, il va de plus en plus à gauche, il est le 20e député de Paris à la Convention, il reçoit un grand compliment de Marat, qui le met parmi les excellents patriotes, il siège à la Convention avec La Montagne. Il va s'occuper de l'administration des arts, entre autres choses, il va concevoir un programme d'embellissement de Paris en 1794, et il va faire, ça c'est un des résultats de son œuvre, il va faire installer les chevaux de Marie de Coustou à l'entrée des Champs-Élysées. Et puis, il vote la mort de Louis XVI, quelque chose qui va évidemment influencer tout le reste de sa vie. Et dès cette année-là, en tout cas, ça lui vaut la demande de divorce de son épouse. Lorsque Marat est assassiné, la Convention lui demande de peindre un tableau commémoratif. C'est peut-être son meilleur tableau, bien entendu, nous en parlerons. Parlons également rapidement du dessin qu'il a fait à la va-vite quand Marie-Antoinette est passée sous ses fenêtres pour aller se faire exécuter. C'est un dessin merveilleux et qui a le grand avantage qu'il nous montre une Marie-Antoinette absolument pas idéalisée, donc on s'aperçoit entre autres choses qu'en bonne Habsbourg, elle était extrêmement prognate. Ces années-là, David va cumuler les postes politiques importants, il va être président du club des Jacobins, il va être un des secrétaires de la Convention, il va être membre du comité de sûreté générale et président de la section des interrogatoires, ce qui évidemment en ces années de terreur est un petit peu sanglant. Cependant, il va quand même protéger un homme qui sera également important plus tard, Vivant Denon, et il le protège tout simplement en le faisant rayer de la liste des émigrés et il va même lui trouver un travail de graveur. Également, il va appuyer la nomination de Fragonard au conservatoire du Muséum des Arts, et Gros, l'un de ses élèves, dont les opinions royalistes n'ont jamais été clandestines, eh bien, il va tout simplement lui donner les moyens de partir en Italie. Il va même être brièvement président de la Convention en 1794, du 5 au 21 janvier, et la tradition veut que ce soit lui qui ait ordonner les couleurs du drapeau français, donc bleu à la hampe et blanc et rouge à la suite. Le 8 Thermidor, quand Robespierre à la Convention dit « S'il faut succomber, eh bien mes amis, vous me verrez boire la ciguë avec calme », David déclare « Je la boirai avec toi ». Oui, mais le 9 Thermidor, donc le lendemain, David n'était pas à la Convention. Barère, un vieil ami, l'avait prévenu de ne pas s'y rendre. Donc David va échapper à la première vague d'arrestation, mais comme tout le monde savait qu'il était un robespierriste, on va l'exclure du comité de sûreté générale, ce qui va marquer la fin de ses activités politiques. Il va être décrété d'accusation, il va être arrêté, et là son arrestation marque la première grande vague de la répression pendant la réaction thermidorienne. Il va être emprisonné à l'ancien hôtel des fermes générales et puis au palais du Luxembourg, mais quand même confortablement, puisqu'on va le laisser disposer de son matériel de peinture pendant son emprisonnement. Ses élèves, courageusement, vont signer une pétition pour sa libération, et de manière plus surprenante encore, Charlotte, qui pourtant est divorcée, eh bien, elle revient en entendant qu'il a été arrêté. Donc, il se remarie le 12 novembre 1796. Et puis, le 10 décembre, on décrète le non-lieu des accusations et sa mise en liberté, principalement à l'évidence, non pas qu'on considère qu'il n'ait pas été un robespierriste, mais clairement parce que tout le monde aime bien sa peinture et s'en voudrait d'envoyer un tel artiste à la guillotine. Bon, il y aura quand même une nouvelle mise en accusation, une nouvelle arrestation, un nouvel emprisonnement. Charlotte va à nouveau remuer ciel et terre, et finalement, David sera amnistié définitivement. À ce point d'ailleurs, qu'il sera membre de l'Institut. Alors, il était déjà membre de l'Académie des Beaux-Arts, vous allez me dire, oui, mais l'Institut, là, c'est l'Institut créé par le Directoire. Et puis, fin 1797, un jeune général corse brillant, monsieur Napoléon Bonaparte, après avoir infligé le traité de Campo Formio aux Autrichiens, revient, et Bonaparte et David se rencontrent au cours d'une réception donnée par le Directoire. Là, David propose à Bonaparte de faire son portrait, qui ne sera jamais terminé. On envoie l'esquisse au Louvre, non pas dans les salles rouges, dans les salles attenantes. Et il n'y a eu qu'une seule séance de pause. Et là, Bonaparte séduit complètement David, qui, dorénavant, l'appelle son héros. C'est grand, c'est beau, c'est comme l'antique, déclare aussi David. Évidemment, 2 ans après, qu'avons-nous? Le coup d'État de Brumaire, et David déclare « Je veux toujours bien penser que nous n'étions pas assez vertueux pour être républicains ». En tout cas, pour lui, le couvert est mis et assuré, puisqu'il fait partie des peintres aimés par Napoléon. À ce point que quand Napoléon donc se fait sacré, comme je l'ai raconté dans l'émission précédente, Napoléon, en octobre 1804, lui commande 4 tableaux qui ont tous à voir avec la journée du sacre. Je rappelle qu'il n'y aura que 2 qui seront réalisés. Et puis, David est nommé premier peintre de Napoléon, mais en fait, c'est Vivant Denon qui s'occupe des arts pour Napoléon. Et quand le tableau du sacre sera terminé en 1808, alors là, Napoléon est absolument ravi, il va le faire officier de la Légion d'honneur. Les liens entre Napoléon et David se distendent un peu plus tard, quand David envoie l'addition, elle est salée, puisqu'il s'agit de 100 000 francs pour le sacre et 100 000 francs pour la distribution des aigles. Napoléon trouve ça très très cher, et par conséquent, le dernier portrait de Napoléon que David va exécuter, eh bien, c'est pour un collectionneur privé, et pire, pour un Écossais, le duc d'Hamilton. Et c'est un tableau qui est exécuté en 1812. Alors 1812, évidemment, pour Napoléon, c'est pas terrible, puisque c'est la retraite de Russie. Et donc là, au lieu de représenter un Napoléon grand empereur ou foudre de guerre, eh bien c'est juste un être humain qui travaille dur, parce qu'apparemment c'est en pleine nuit, l'horloge marque 4h13, et il travaille à ce qu'on présume être le code civil. Arrive la fin de l'Empire. Mai 1814, David termine Léonidas aux Thermopyles. Alors, Léonidas aux Thermopyles, il l'avait commencé en 1800, c'est-à-dire 14 ans auparavant, et puis il y avait eu tellement d'autres tableaux entre qu'il l'avait mis de côté. Oui, mais 1814, c'est la date de la première abdication de Napoléon. Cela dit, pendant les 100 jours, c'est-à-dire quand Napoléon revient au pouvoir, David redevient premier peintre et il est même fait commandeur de la Légion d'honneur. Mai 1815, David signe en particulier les fameux actes additionnels aux constitutions de l'Empire. Et puis, Waterloo arrive, Morne-Plaine. Gros, Gérard et Giraudet se rallient absolument sans honte à la monarchie. David, lui, se dit que, quand même, lui, il a quand même été régicide. Et donc, il décide d'abord de mettre en sûreté les Sabines, le Sacre, la distribution des aigles et Léonidas, et il part en Suisse. Il revient quand même en France, en août 1815, on le reçoit bien, et d'ailleurs, le ministre de la Police propose, en toute injustice, de le soustraire à la loi de 1816 qui excluait de l'amnistie et proscrivait du royaume les régicides ayant signé les fameux actes additionnels. Eh bien non, David ne le sent pas et va quitter définitivement la France. Il va finalement aller en Belgique et malgré toutes les propositions qu'on lui fera, il y restera et il y mourra le 29 décembre 1825. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans le sou. Donc, pensez peut-être à faire une donation à Radio Libertaire pour qu'elle puisse continuer à émettre et à fonctionner. C'est toujours l'Ému s'amuse et nous continuons notre cycle sur le Musée du Louvre. C'est la deuxième émission consacrée au Musée du Louvre. Et celle-ci est consacrée à David, les œuvres de David, pas toutes, mais les principales œuvres de David dans les salles rouges. Et l'œuvre dont nous allons parler maintenant, après avoir donné la biographie de David, eh bien, c'est l'autoportrait qui y est présenté. Cet autoportrait a été réalisé en 1794, alors que David, après la réaction thermidorienne, est emprisonné dans l'hôtel des fermes générales. C'est son troisième et son dernier autoportrait. Il le donnera à son ancien élève Isabey, et cet autoportrait entrera au Louvre en 1852. Lorsque David part en prison, il est accompagné par l'un de ses élèves, De La Fontaine, qui va lui apporter un miroir. Et c'est en se regardant dans ce miroir que David peint son autoportrait. Et dans un miroir, on sait bien que les positions sont inversées, la droite et la gauche sont inversées. Mais curieusement, David ne va pas tenir compte de cette inversion. Par exemple, il ne va pas la corriger. Par exemple, il se montre avec le pinceau dans la main gauche, alors qu'il est droitier. De même, on sait qu'il a une tumeur dans la joue gauche, probablement une conséquence d'un duel dans sa jeunesse étudiante, et cette tumeur, elle est normalement sur la joue gauche, mais là, elle est à droite et dans l'ombre. Et puis, il se représente en jeune homme. En fait, il a déjà 46 ans. Alors, les historiens d'art ont une théorie intéressante. Chaque autoportrait de David a correspondu à un grand changement dans sa vie. Celui-ci, le changement est très clair, il a été un homme politique presque important, et là, tout d'un coup, il n'est plus rien, il n'est plus qu'un peintre. Et c'est là sans doute quelque chose dont il veut marquer le coup, et il se représente donc en peintre. Et certains historiens de l'art disent même que c'était peut-être dans l'espoir de se justifier, de se défendre, de dire « mais je ne suis qu'un peintre et je suis d'ailleurs, vous voyez, je suis si jeune, je suis un peintre naïf ». David a-t-il été aussi lâche et aussi, là pour le coup, réellement naïf que cela? Je n'en sais rien. C'est possible, est-ce probable? À vous de décider. Et puis un autre tableau, l'un de ces tableaux qui m'intéresse moi le plus, en particulier pour quelque chose, parce qu'il est extrêmement intelligemment construit du point de vue graphique, c'est le tableau qu'il peint juste à la veille de la Révolution et qui s'appelle « Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils ». Donc ce tableau est achevé en 1789. Alors monsieur Lucius Junius Brutus, aidé de Tarquin Collatin, va renverser, lui et tant d'autres, Tarquin le Superbe, le dernier roi de Rome. Une fois qu'il a réussi, eh bien, Brutus devient consul en 509 avant Jésus-Christ. Seulement, voilà, les deux fils de Brutus, qui s'appellent Titus et Tibérius, conspirent contre la République. Oh ben zut alors. Et une lettre qui en témoigne tombe entre les mains de Brutus. Il a la preuve de la trahison de ses fils. Dilemme évident, punir ses fils selon son devoir de consul, les épargner selon son devoir de père. Et le tableau représente, évidemment, on est pile à la veille de la Révolution, et les esprits sont déjà probablement très échauffés. Brutus est représenté en homme qui va sacrifier son intérêt personnel, ses amours personnels, son amour filial, son amour directement paternel pour ses fils, pour le plus grand bien, pour le bien commun, pour celui de la République. L'ironie de la chose est que ce tableau, c'est une commande des bâtiments du roi, donc c'est une commande de la monarchie, qui était censée arriver au salon de 1787. Il a d'ailleurs, quand il a été terminé, Louis XVI l'a acheté, 6000 livres. Il a été exposé au salon de 1789 et il sera même, chose rare, très rare, il sera réexposé au salon de 1791. Et il est entré dans les collections du Louvre dès 1793. Qu'est-ce qui est représenté? Alors tout d'abord, David représente quelque chose dont on n'a pas de traces, quelque chose qui est tout à fait probable, mais que les historiens romains ne mentionnent pas. Et ça se passe où? Eh bien, ça se passe dans la résidence du consul. Il est assis en bas, à gauche. Alors, souvenons-nous qu'un tableau occidental, comme nous sommes des occidentaux qui lisons de haut en bas et de gauche à droite, donc un tableau, normalement, ce qui est important, c'est ce qui est en haut à gauche. Et puis, normalement, les choses se déroulent vers le bas à droite. Et lui, Brutus, il est important, donc il est peut-être à gauche, mais en fait, il est en bas. Et puis, il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre parce qu'évidemment, c'est pas facile le choix qu'il va devoir faire. Alors, il a un visage inflexible. Dans sa main gauche, il y a un papier qu'il tient froissé, donc évidemment, ça c'est le devoir, c'est le règlement qu'il fait souffrir, mais auquel il tient littéralement. Il a les pieds crispés. Il est juste en dessous d'une statuette, une statuette encore plus dans l'ombre que lui, et cette statuette représente Rome, et elle a un aspect délibérément archaïque. Et puis, derrière lui, on voit des licteurs, donc on va dire en gros, de manière anachronique, c'est la police de Rome. On voit les licteurs qui rapportent les deux corps de ses fils. Et là, il y a quelque chose donc graphiquement d'extraordinaire, parce que quand vous aurez le tableau devant vous, bah, vous allez remarquer que les licteurs entrent par un couloir qui va bien dans le tableau de gauche à droite. Mais ce couloir est immédiatement bloqué par une espèce de rideau, et donc ils tournent dans ce qui est pour eux leur gauche, mais ce qui est pour nous vers le fond du tableau. Et puis on comprend qu'il y a ensuite un deuxième virage où eux tournent à droite et donc se remettent, on va dire, en parallèle au fond du tableau. Et donc, il y a une espèce de forme en S. Et surtout, il y a donc un creusement extraordinaire, un sens de la profondeur du tableau. Mais attention, ce sens de la profondeur est en même temps, et là bien entendu c'est voulu par David, est en même temps contré par le fait que la majeure partie du tableau est occupée par l'espace le plus lumineux et qui est l'espace, de manière fort surprenante, réservé aux femmes. Parce que les êtres humains qui occupent le plus d'espace dans ce tableau, ce sont les femmes. Quelles femmes? Eh bien, l'épouse de Brutus, ses filles, et puis une fille, une femme, dont on peut supposer que ce soit une grand-mère, soit donc la mère de Brutus éventuellement, ou une servante, enfin c'est une vieille femme. Et l'élément tragique, l'élément le plus important, le plus dramatique, c'est les deux cadavres des fils, sont à peine visibles. On voit juste deux pieds. Mais on les imagine, et on les imagine dans le fond du tableau, dans un deuxième espace, derrière ce qui est l'espace principal du tableau, c'est-à-dire la pièce, on va dire le salon en termes modernes, anachroniques, des femmes de Brutus. En plus, il y a un petit élément célèbre, mais en même temps très intelligemment posé par David. Au centre exact de la composition, il y a une table. Et sur cette table, il n'y a qu'une espèce de petit panier qui est un panier à ouvrage, c'est-à-dire un panier qui comporte un peu de tissu et puis des aiguilles et du fil et une paire de ciseaux. Bien entendu, l'ouvrage de couture pour les dames. C'est-à-dire que ce qu'il y a au centre du tableau, c'est la vie intime, c'est la vie familiale, c'est la vie aimante, c'est l'amour des femmes pour les hommes, qu'ils soient leur mari ou leur fils ou leur frère. Et cet amour se voit bouleversé par la violence politique des hommes. On en reparlera très vite pour les autres tableaux de David. On constate une différence très nette de ligne, de forme des lignes, entre les femmes et les hommes. Les hommes sont anguleux, La position de Brutus n'est pas une position confortable. Il est assis, mais mal assis sur une chaise. Et il a beau se tenir la tête avec la main, on sent bien qu'il est tout raide. Les licteurs, eh bien, sont dressés, ils sont debout, ils font leur travail. Et les corps, les cadavres des deux fils, on devine également bien qu'ils sont allongés, donc ils sont une ligne droite. Alors que les femmes, elles, sont toutes en courbe. On retrouvera cette opposition entre les mâles phalliques, rigides, et les femmes en courbe, en ventre et en sein, et en pleurs, très souvent en pleurs chez David. On va retrouver ça très souvent. Mais cette rigidité phallique des mâles, ça c'est aussi une lecture, pas exactement anachronique, mais ce qui est anachronique c'est le fait de le signaler, mais c'est aussi que le néoclassicisme se veut un retour à un rationalisme qui semblait perdu du point de vue purement pictural et esthétique dans toutes les courbes, dans toutes les fanfreluches du rococo. Alors, mine de rien, on peut continuer à maintenir cet aspect genré des choses. Le rococo, je pense, a été finalement vu comme un style extrêmement féminin. Et le néoclassicisme a été une réaction masculine, exactement comme aujourd'hui, il y a cette abominable réaction d'extrême droite, et qui est, dans tous les pays du monde, absolument basée sur la panique masculine devant l'émergence féminine. Il est tout à fait intéressant de constater que ce tableau est un éloge de la République, alors qu'il a été commandé par la monarchie. C'est à la fois un peu un hasard, et en même temps, on sait que David a quand même choisi ce sujet, alors qu'il avait un autre sujet, qui avait quand même aussi, lui, un rapport avec la République romaine, mais quand même, là, à la fois la coïncidence et peut-être le désir sont quand même très très bienvenus du point de vue chronologique, et on sait que David lui-même va dire que si la monarchie va être un peu hésitante à l'exposer au salon, c'est, selon les mots même de David, à cause de l'analogie entre la conduite de Brutus et celle qu'aurait dû tenir Louis XVI à l'égard de son frère, alors son frère le comte d'Artois, le futur Charles X qui va émigrer, et de ses autres parents qui conspiraient contre la liberté de leur pays. Et donc Brutus va devenir un symbole de la Révolution française, à ce point que l'un des amis de David, le très grand acteur de l'époque, Talma, va jouer Brutus dans un drame écrit par Voltaire, et Talma va ajouter une scène, absolument pas écrite par Voltaire, qui était déjà mort, il va ajouter une scène qui va permettre de copier exactement le tableau de David, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un tableau vivant. Et d'ailleurs, l'année suivante, en 1790, dans un numéro de la lettre bougrement patriotique du véritable père Duchesne, le père Duchesne rappelle que David est l'auteur, ouvrez les guillemets, de ce Brutus si sombre, si déterminé, ce fier bourreau du despotisme, ce vrai modèle des hommes libres, fermez les guillemets, et tout ceci explique que, de manière donc tout à fait exceptionnelle, l'électeur apportant les corps de son fils Brutus sera exposé une deuxième fois à un salon, le salon de 1791. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont toujours les muses s'amusent. Nous continuons à parler des peintures, des tableaux de David au musée du Louvre, ce en tout cas dans la salle rouge. Nous avons donc terminé de parler du tableau « Les licteurs apportant à Brutus les corps de ses fils ». Et maintenant, il s'agit de parler d'un tableau encore un peu plus grand, le Serment des Horaces, qui a été fait un petit peu avant les licteurs. Il a été terminé en 1785. Il est très grand, 3,30 m de haut, 4,25 m de large. Et comme on sait, c'est une légende de l'histoire de la Rome antique. Trois frères, les frères Horace, sont en combat singulier contre trois frères d'une ville ennemie, la ville d'Albe, mais c'est une ville voisine. Les champions de la ville d'Albe s'appellent les Curias, et le combat entre les trois Horaces et les trois Curias va décider du sort des deux villes. La ville dont les champions vont perdre sera dominée par l'autre. Comme on sait, il ne survivra qu'un seul Horace, mais c'est lui qui aura gagné. Et c'est la raison pour laquelle, bien plus tard, on parlera de l'Empire romain et non pas de l'Empire albain. Seulement, voilà, le problème, selon en particulier Tite Live, c'est que les sœurs des Horaces étaient les épouses des Curias et les épouses des Curias étaient les sœurs des Horaces. J'espère que j'ai bien marqué que des deux côtés, on est lié par le mariage. De fait, le grand héros qui va revenir, donc le seul survivant du combat, celui qui assure à Rome la domination, quand il va revenir, eh bien, sa sœur Camille va le maudire parce qu'il est responsable de la mort du mari de cette sœur. Là, la scène que l'on voit, ce sont les frères Horace qui jurent à leur père de se battre, c'est-à-dire de vaincre ou de mourir. De même que pour les licteurs, la scène n'est pas une scène que l'on connaît dans les textes antiques, en particulier dans Tite Live qui raconte l'histoire, et un certain nombre de commentateurs ont rappelé que David était franc-maçon. Et chez les francs-maçons, les serments sont très importants, et tout au début, quand on est initié dans la franc-maçonnerie, il y a un rituel avec des épées, il y a d'autres rituels avec des épées. C'est tout à fait probable que là, il y ait une allusion à la franc-maçonnerie. Ce qui est plus important et plus aisément lisible, c'est l'omniprésence du chiffre 3 dans ce tableau. Il y a tout d'abord trois groupes de personnages, les frères, premier groupe, deuxième groupe, le père, troisième groupe, les femmes, et chacun de ces trois groupes est lui-même mis, en gros, dans l'une des trois arcades que l'on voit en arrière-plan. Et puis, 3 en géométrie, eh bien, c'est le triangle. Le triangle, c'est la forme géométrique qu'on obtient en mettant ensemble trois lignes droites. Trois lignes droites. D'ailleurs, regardez le triangle des trois jeunes Horaces, des trois jeunes mâles, et vous voyez à quel point leurs jambes sont en forme de triangle, et leurs torses sont en forme de triangle inversé, et leurs bras tendus dans le salut à la romaine qui ne devient pas encore le salut fasciste, qui ne devient pas encore le salut nazi, qui ne devient pas encore le salut de ce salopard d'Elon Musk, eh bien, ces trois Horaces sont donc, les bras de ces trois Horaces forment donc, avec le bras du père, encore un triangle. Le père lui-même, les jambes du père lui-même sont également un triangle. Un triangle qui, à nouveau, fait tout à fait penser au phallus de ces messieurs. Vous me direz que j'ai l'esprit mal tourné, mais je trouve qu'il y a beaucoup de phallus dans les tableaux de David. Alors, comme par ailleurs, il n'y a strictement aucune autre ombre de tendance à l'homosexualité chez David. On peut penser que s'il y avait une tendance à l'homosexualité, elle était peut-être inconsciente. Et que, ma foi, ces phallus picturaux n'en ont été que la seule manifestation. Constatons que, par ailleurs, le père lui-même doit quelque chose au chiffre 3, puisqu'il tient trois épées, les épées de ses fils. Notons en plus que ces épées, il y en a deux qui sont courbées et il n'y en a qu'une qui est droite. On peut donc aisément imaginer que c'est là un petit rappel que sur les trois frères, seuls deux vont survivre. Et puis, il y a le troisième groupe, où alors là, il n'y a plus du tout de triangle, où là, tout comme chez les licteurs, on a une espèce de d'amas mou, de lignes qui vont un peu dans tous les sens. Donc à nouveau, pour les hommes, on est droit, on est rigide, on est rationnel, on est voué à la patrie, à quelque chose de grand. Les femmes, selon David, on est mou, on est émotionnel, on est aimant, et on est voué à l'amour de gens qui sont des gens tout à fait directs. Notons en plus, à nouveau, une forme un peu bizarre de séparation des sexes. Si on trace une ligne médiane horizontale dans le tableau, les têtes des hommes sont au-dessus de cette ligne médiane, alors que la totalité du corps et de la tête des femmes sont en dessous de la médiane. On note également les émotions évidentes des hommes et des femmes. Les hommes sont tendus, tendus comme des phallus en érection, tendus vers leur volonté et à nouveau vers le service de la patrie. Les femmes, elles, sont incapables d'agir et elles sont dévorées, abattues par la tristesse. Ce qu'il y a de néoclassique dans ce tableau, pas très correct du point de vue de la lutte contre le patriarcat, ça c'est sûr, mais qui est en revanche un tableau extraordinairement puissant, tant du côté graphique que du côté de la clarté du message que David veut envoyer, eh bien, ce tableau est donc bourré de techniques et d'habitudes et d'idées néoclassiques. Tout d'abord, très souvent, dans le néoclassicisme, ce qui est dans le fond, c'est ce qui n'est pas important, et ce qui est au premier plan, c'est ce qui est important, et ce qui est au premier plan, est en général, ce sont en général les figures humaines. On a également, avec les trois frères qui sont mis les uns à côté des autres, en une série de profils extrêmement rapprochés, un peu comme à l'époque moderne, vous savez, avec ces profils dans les tracts d'extrême gauche marxiste, léniniste, staliniste, maoïste, où il y avait Marx, Engels, et Lénine, et Staline, et Mao. C'est un peu pareil. Et là, on a ces profils qui se succèdent. C'est quelque chose de très ancien, puisque c'est aussi quelque chose qu'on va trouver en particulier dans des bas-reliefs carrément babyloniens, sumériens et assyriens. Il faut également noter des compositions extrêmement puissantes dans le néoclassicisme, et on voit bien que là, le nœud du tableau, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le point où les mains des cuirasses se rapprochent des pommeaux des épées tenues par le père, et ce point-là, eh bien, c'est le point de fuite de la perspective du tableau. Laquelle perspective est renforcée par les lignes du parquet, les lignes du sol, qui vont vers ce point. Également, on note que le fond est peint en couleur relativement terne, alors que les acteurs de l'histoire racontée sont peints en couleurs nettement plus vives. En d'autres termes, le néoclassicisme prétend, il ne le fait pas toujours, mais il prétend que l'histoire peinte, l'histoire qui est peinte, est beaucoup plus importante que l'acte de peindre lui-même. En d'autres termes, les tableaux néoclassiques se veulent comme des espèces de pièces de théâtre immobiles, et où le récit, et qui est un récit en règle générale à portée morale, est beaucoup plus important que ce qui représente ce récit. Enfin, les lignes, les contours sont très précis, très fermes, et on ne voit pas les coups de pinceau. On ne reverra les coups de pinceau, en tout cas dans la peinture française, que assez tard, c'est-à-dire quand il y aura les impressionnismes. Bon, d'accord, il y a eu le cas de Corot et des peintres de Barbizon, mais justement qui sont vus comme des précurseurs de l'impressionnisme. Alors que chez David, eh bien, dans la plupart des tableaux de David, David ne veut pas qu'on fasse attention à son coup de pinceau, il veut qu'on fasse attention au résultat global. Et là aussi, on voit le lien avec la prétention au rationalisme du néoclassicisme. On voit bien que le néoclassicisme, c'est un style de l'époque des Lumières, de l'époque qui se veut rationnelle.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité, quand même en faire un petit peu, mais c'est pour la bonne cause, pour les livres des éditions du Monde Libertaire, dont le rythme de parution est considérablement augmenté depuis quelque temps, et je voudrais juste rappeler deux titres dont les sujets me tiennent à cœur. Tout d'abord, La décroissance libertaire de Jean-Pierre Tertrais. La décroissance, pour moi, j'ai toujours pensé que décroissance et anarchisme, c'était bonnet blanc et blanc bonnet. Et puis, un thème qui me tient tout autant à cœur, moi je n'ai pas d'enfant, à la fois par paresse, par manque de désir de la chose, et puis aussi par choix. Et c'est la raison pour laquelle je ne saurais trop recommander Pour un dénatalisme libertaire, sous-titre Ne pas vouloir d'enfant dans une perspective de lutte anticapitaliste de Nicolas Lamblet. Voilà donc, parmi tous les nouveaux ouvrages des éditions du Monde Libertaire, moi personnellement, j'apprécie encore plus ces deux-là. Nous continuerons à parler des œuvres de David dans les salles rouges du Louvre dans la troisième émission du cycle consacré au musée du Louvre. Je ne sais toujours pas combien d'émissions ce cycle va comporter, mais comme je rappelle qu'il y a 40 000 œuvres exposées au Louvre, ce cycle risque d'être un peu long. Non, on ne parlera évidemment pas des 40 000 œuvres, j'en serai de toute façon bien incapable. Néanmoins, ça va quand même être un cycle, je l'espère, aussi intéressant qu'imposant. On verra bien. En tout cas, donc, pour la prochaine édition d'Emus Amus, c'est-à-dire le premier lundi du mois à 21h, eh bien, nous continuerons à parler de David dans les salles rouges, nous parlerons de la mort de Marat, nous parlerons du portrait de Juliette Récamier, nous parlerons de Léonidas au Thermopyles, nous parlerons des Sabines et nous parlerons peut-être du portrait du pape Pie VII. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.